Bonsoir. Concertation nationale, le Présidium a finalement décidé la participation comme expert à ses assises des ex-groupes armés, issus des accords de Goma et mieux en parti politique. Comment analyser cette décision du Présidium et quel pourrait être son impact sur l'activisme des groupes armés en RDC? Nous en parlons avec Isaac Akili Biamungu, il est président du parti politique Union des Jeunes Progressistes Solidaires. C'est parti signataire de l'accord du 23 mars 2009. Bonsoir Isaac Akili Biamungu.
Bonsoir.
Roger Malinga, il est conseiller politique et diplomatique du gouverneur du Nord Kivu. Bonsoir Roger Malinga.
Bonsoir.
Et Mohamed Boulay, il est député national de l'opposition et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est aussi général à la retraite. Bonsoir Mohamed Boulay.
Bonsoir.
Bénédiction Migo de Bukavu, sud Kivu. La question des participations des ex-groupes armés, c'est une bonne chose, mais malheureusement, intervient au moment où les concertations sont sur le point de se terminer. À ne pas oublier qu'il y a aussi une multitude de groupes armés actifs qui commettent des atrocités au niveau du territoire national. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'option a été levée, le Présidium a décidé la participation en concertation nationale des ex-groupes armés issus des accords de Goma et mieux un parti politique. Ceci ressort de la rencontre de la mi-journée d'hier mardi entre les Présidiums et trois représentants des trois grands programmes de stabilisation de la RDC. Il s'agit notamment du secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, de l'administrateur du programme national DDR et d'un expert du programme Starek. Était également présent à cette rencontre le représentant de ces les ex-groupes armés. Notez que cette admission en concertation nationale intervient au moment où les groupes thématiques sont à la phase d'harmonisation de leur rapport final. Explication avec Jacques-Yves Molima.
Au cours de cette rencontre, les animateurs des programmes de stabilisation ont présenté au Présidium des propositions concrètes quant à la recherche des résolutions aux conflits. À cet effet, le Présidium a pensé que leurs propositions en termes de conclusions pourraient apporter un plus aux travaux au sein du groupe thématique désarmement, démobilisation, réinsertion sociale ou rapatriement. L'expert du programme Starek, l'abbé Apollinaire Malumalu, parle de ce que pourrait être leur apport à ces assises.
Ces représentants intègrent les concertations en qualité d'experts. Par leur expérience et leur témoignage, ils peuvent donner certainement nombre de pistes de solutions de l'éradication des différents groupes armés et stabiliser l'ensemble du territoire national.
Mais quels sont ces ex-groupes armés mis en parti politique admis aux concertations nationales? L'un d'eux, Isaac Akili Biamungu, énumère.
Nous sommes une délégation composée de 7 partis politiques, ici de l'accord du 23 mars. Nous avons l'Union des Jeunes Progressistes Solidaires, qui est l'IJPS. Nous avons le PARECO-PAP, aussi l'AFPC, l'IRDEC, l'IDN, Barouenzori. Nous avons aussi le Parrainas et aussi des délégués, l'un pour le DDR, l'autre pour le Conseil national des réfugiés.
Notons pendant ces temps que leur arrivée pourrait avoir une incidence sur les conclusions des travaux dans ce troisième groupe thématique.
Isaac Akili Biamungu, vous êtes président du parti politique Union des Jeunes Progressistes et Solidaires. Vous êtes aussi signataire de l'accord du 23 mars 2009. Comment analysez-vous cette décision du Présidium qui consiste, n'est-ce pas, à associer les ex-groupes armés aux concertations nationales?
En fait, s'il faut analyser la décision ou l'option levée depuis hier du Présidium, je pense que c'est une très bonne décision. Parce que normalement, au lieu et place de tergiverser, surtout sur la cartographie des groupes armés, au lieu de tergiverser sur l'identification des groupes armés, parce que nous avons appris dans les débats, surtout au sein de la thématique en charge ici de démobilisation, désarmement et réinsertion, il y avait une liste qui était même allongée jusqu'à 198 groupes armés. Et une chose inacceptable dans un pays, nous ne croyons pas et nous ne pouvons jamais affirmer qu'il existe plus de 198 groupes armés sur le territoire congolais. Donc nous avons vu que le moment était venu, même si peut-être le Présidium avant n'avait pas encore cette option, ne pensait pas de notre expertise, mais il a levé l'option et nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose, parce que réellement il n'en existait pas. Au Nord Kivu, nous savons réellement que oui, il y a quelques groupes armés, mais aussi nous ne devons pas oublier, il y a des phénomènes dans les groupes armés actuellement. Il y a ce que nous appelons, ce que nous qualifions ici des résiduels, des éléments résiduels du processus de paix. Donc ceux-là qui ont signé, qui ont pris part à l'accord du 23 mars et qui se sont réfractés après un temps, dont nous pouvons citer aussi, parce que c'est parmi les réfractaires, les 1-23, qui étaient ici, qui est l'émanation, qui vient en fait complètement du CNDP, il y a un Pareco, dont nous avons un Pareco, aussi signataire des accords de paix, mais Pareco une partie, fort. Pareco encore qui est encore dans la forêt, nous avons, c'est comme Kifuafua, nous avons au fait des tendances, nous avons même d'autres groupes qui sont nés d'autres groupes. Nous pouvons partir ici, comme le groupe aujourd'hui qui se dénomme Nyatura, qui au fait était l'un des partis. Beaucoup de ces ténors vient d'un groupe aussi signataire que nous appelons Pareco
City. C'est une nébuleuse.
Tout à fait.
Vous avez le statut d'expert. Cela veut dire quoi? Votre marge de manœuvre est réduite par rapport aux autres participants à ces consultations nationales?
Moi, je ne pense pas et je ne peux pas croire. Parce qu'en fait, ici, souvent dans notre pays, nous avons un problème de spéculation sur les termes ou la terminologie des mots, surtout en ce qui concerne la politique. Parce que sur les documents, ils écrivent « ces membres sont délégués en qualité d'expert ». En fait, nous ne pouvons pas en faire du polémique, mais ce qui importe, c'est d'apporter notre expertise, c'est d'apporter une contribution pour, au fait, le rétablissement de la paix sur le territoire congolais.
Le Présidium estime que vos propositions pourraient apporter un plus aux travaux au sein des groupes thématiques désarmement, démobilisation et réinsertion sociale. Nous savons que les travaux ont pris fin dans les différents états généraux. Et qu'est-ce que vous comptez apporter et qui n'a pas été débattu dans votre groupe thématique?
Je pense que nous sommes concernés parce qu'il s'agit ici des questions qui concernent ici de rétablissement, de la reconstruction de chez soi. Nous nous disons que même à la dernière minute, nous avons un travail technique que nous allons soumettre d'abord à la thématique concernée, désarmement, la thématique des DR, et aussi présenter ce même, le même travail, le même recommandation, peut-être sera couché dans le rapport final pour le Présidium, pour le plénière.
Et c'est vous, ex-groupe armé, mieux en parti politique, que le Présidium souhaite associer aux travaux en lieu et place des groupes armés actifs. Et c'est vrai que vous avez évoqué qu'il y avait risque, n'est-ce pas, de tergiverser sur l'identification des différents groupes armés actifs. Vous pensez que c'est l'unique raison qui a poussé les présidiums à opter pour les ex-groupes armés?
Non, je ne pense pas, mais en fait, je crois que la raison doit être double. Une raison purement d'abord politique et deuxièmement aussi une raison purement technique. Dans le sens où sur le plan technique, nous avons une certaine expertise avec tout l'état que nous avons passé à la commission mixte paix et sécurité à Goma, avec la facilitation internationale, nous avons élaboré des plans pour le désarmement, pour la démobilisation. Nous avons élaboré des plans pour la stabilité de l'Est. Nous avons une certaine expertise. Mais pour sur les raisons politiques, nous pensons aussi que réellement le gouvernement, et nous ne devons pas, étant partenaires ici pour la paix, nous ne devons pas nous voiler la face. Il y a l'accord du 23 mars qui souffre jusqu'à aujourd'hui. Il y a un problème de non-exécution, de non-achèvement du processus de paix qui est de l'accord du 23 mars et dont aujourd'hui, Kampala M23 parle de l'accord du 23 mars et dont nous nous sommes signataires. Comme nous ne prenons pas part, en fait, à ce qui se passe à Kampala, il était aussi important que réellement dans un cadre comme celui-ci, les concertations nationales, nous pouvons voir comment évoquer les points, les questions qui sont en suspense et trouver un moyen de les vider et trouver des recommandations que nous pouvons formuler pour vider et clôturer complètement le comité national de suivi des accords du PDP du 23 mars de Goma.
Merci Isaac Akili Diamungu. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Goma, au Nord Kivu.
Mathieu Bawé, depuis Goma, en province du Nord Kivu. L'initiative est prise par le président de la participation des ex des groupes armés aux concertations est bonne, sauf qu'on va encore oublier pour la énième fois les vrais acteurs à un. Ceci est la conséquence de la politique du tâtonnement et la mauvaise planification.
Vous allez nous excuser pour le fond musical. Il voulait dire ceci. L'initiative prise par les présidiums de la participation des ex-groupes armés aux concertations est bonne, sauf qu'on va encore oublier pour la énième fois les vrais acteurs à inviter. Ceci est la conséquence de la politique des tâtonnements et la mauvaise planification.
Effectivement, il a raison, mais ce qu'il faut savoir, nous sommes déjà au virage, à la fin de ce tournoi. Et puis aussi, ce que nous devons savoir est que il ne pouvait pas prendre tout le monde, parce que les signataires ici, vous vous souviendrez, que les partis qui ont pris part à l'accord sont 19 signataires, au Nord Kivu et au Sud Kivu, mais par contre, le parti qui se sont transformés,
qui émanent ici de ces mouvements, de cet accord, sont seulement des partis politiques. Et donc, on ne pouvait pas prendre par tous. C'est juste un échantillon, s'il faut le dire, qui viennent représenter les autres. Et nous pensons, si cet échantillon réellement pourra jouer bien son rôle, donc il n'y aura pas question d'oublier d'autres, parce que c'est lui qui dit comme ça, je pense qu'il estime qu'ils ne sont pas en dehors de l'accord.
Vous pensez que cet échantillon-là est représentatif sur une centaine de composantes Maï-Maï?
Sur des centaines, ici nous parlons d'abord de l'accord du 23 mars. Pour sur les centaines, je l'ai évoqué ici, il y a d'autres qui naissent et qui se recréent parce que seulement il y a eu peut-être mal exécution au fait ou non respect d'un engagement politique entre partenaires politiques.
Roger Malinga, vous êtes conseiller politique et diplomatique du gouverneur du Nord Kivu. Vous êtes sur le terrain où ces groupes armés sévissent. Comment vous analysez cette décision du Présidium qui associe les ex-groupes armés et semble ignorer l'existence de ceux qui sont actifs sur le terrain?
Merci pour la question, messieurs les journalistes. Je vais commencer d'abord à saluer mes co-débatteurs ici au studio. Je parle de l'honorable Mohamed Boulay, député national de l'opposition et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui est expert militaire. Je vais également saluer Monsieur Isaac Akilimali, qui est président du parti politique Union des jeunes progressistes et solidaires. Par rapport à la question, je vais d'abord aussi saluer cette décision du Présidium des consultations nationales d'avoir finalement accordé la participation des délégués des groupes armés qui se sont mis en parti politique, je crois que c'est une décision salutaire. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'au sein de cette commission DDR, il a été mentionné à un certain moment une revendication qui était noble de certains patriotes, de certains compatriotes de l'opposition qui avaient estimé qu'on ne devait pas parler de la situation sécuritaire de l'Est sans parler des seigneurs de guerre ou sans parler de leur présence dans les travaux de commission.
Là, il s'agissait des groupes armés actifs et non des ex-groupes armés mis en parti politique.
Maintenant, la spécificité, c'est celle-ci. Effectivement, il ne faudrait pas que ce soit une occasion pour que d'autres groupes armés revendiquent en disant que nous voilà, il y a tel groupe, il y a des délégués de tel groupe armé qui sont partis à Kinshasa aux concertations et qu'ils ont droit aussi à participer.
Les délégués... Et donc, vous pensez que associer ces groupes armés actifs pourrait, n'est-ce pas, créer un précédent fâcheux?
Oui, en fait, la précision...
C'est une façon de les encourager, de les congratuler, c'est ça?
La précision, c'est celle-ci. Pour ce qui concerne les groupes ou les délégués des groupes armés qui se sont mis en parti politique, ils ont accepté la procédure. Ils ont accepté la démocratie ou la procédure démocratique qu'il faut suivre. Et c'est-à-dire, ils ont adhéré aux principes démocratiques et les champs de bataille aujourd'hui, ce sont les élections. Contrairement à d'autres groupes armés qui sont restés dans la forêt, ils continuent à revendiquer avec les armes. Et donc, les concertations aujourd'hui, les concertations nationales, ne constituent pas un cadre pour eux, mais plutôt pour ceux-là qui se sont mués à parti politique. J'ai continué à donner la précision. Et là, nous avons suivi qu'il y a certaines personnes qui revendiquent en disant qu'ils voudraient bien participer aux concertations nationales et qui représenteraient la coordination des groupes armés. On s'est dit, ça c'est une nouveauté. Moi je n'ai jamais entendu un coordonnateur de groupes armés parce qu'en fait j'ai eu le privilège de participer à la conférence de paix, de sécurité et de développement à Goma. Nous avons travaillé avec certains groupes, avec les délégués de certains groupes armés. Ils sont au nombre de 23. Et là, on ne parlait pas de la coordination. Et donc, je m'imagine que c'est une occasion où certaines personnes voulaient encore nourrir ses appétits de vouloir accéder à des postes politiques sans suivre la procédure recommandée des élections. Et donc, pour compléter en fait le président Isaac, il y a une précision qu'il faudra donner ici. Je voudrais donner un raisonnement à trois niveaux par rapport à la décision qui a été prise du Présidium des consultations nationales. Le premier niveau, on ne peut pas parler en fait des groupes armés sans pour autant parler de leur genèse. Ça, c'est très important. Si on parle de groupes armés, c'est-à-dire ils sont nés et ils existent. Le deuxième niveau, c'est leurs objectifs. C'est-à-dire s'ils existent et s'ils sont là, c'est-à-dire ils ont des objectifs, ils ont des revendications. On doit aussi aborder cet aspect. Et le troisième niveau de mon raisonnement qui fait que l'accord soit donné de la part du Présidium, et qu'il y a eu des forums importants qui ont été initiés et qui, dans lesquels on a parlé ou on s'est retrouvé avec les groupes armés. Je parle de la conférence sur la paix et le développement de Goma au mois de janvier 2008. Je parle aussi de l'accord de paix qui a été signé entre le gouvernement congolais et les CNDP au mois de mars 2009. Alors voilà en fait les trois fondements de mon raisonnement. Quand on parle en fait de la genèse plutôt, des groupes armés, en fait ils sont nés, ils existent à l'est de la RDC et même au nord Kivu. Et c'est comme ça que ces groupes sont opérationnels, mais il y en a d'autres à un certain moment de l'histoire, ils ont accepté de se transformer en parti politique, c'est-à-dire ils adhèrent aux principes démocratiques. Le deuxième volet de mon raisonnement, c'est par rapport maintenant à leurs revendications ou à leurs objectifs. La plupart de ces groupes armés disent qu'ils protègent, ils ont en fait un objectif de protéger leur communauté ethnique. Et vous vous rappelez, s'il y a eu encore une crise qui est montée au créneau en 2009, c'est parce que à un certain moment, quand les processus étaient en marche de rétablir la paix à l'est de la RDC, essentiellement au nord et sud Kivu, il y a eu des officiers militaires qui étaient restés dans cet espace en disant qu'ils vont rester et qu'ils vont protéger leur communauté, et la crise s'est accentuée. Maintenant, au troisième niveau, c'est par rapport aux deux forums. Les groupes armés avaient apporté leur cahier des charges, étaient débattus, étaient traités, et finalement, il y a eu un accord, des engagements qui ont été signés à la conférence de Goma. Et le 29 mars 2009, il y a le gouvernement congolais qui a signé un accord de paix avec les CNDP. Mais aujourd'hui, quand on parle en fait de leur participation, il faudra qu'on donne la précision qu'ils viennent participer, ou les délégués qui ont accepté de se muer ou de travailler comme parti politique, ils viennent comme experts. Donc, en fait, la commission, la thématique DDR voudrait, en principe, profiter de leur expérience et finalement voir s'il y aura des éléments complémentaires qui vont apporter au travail déjà fait, parce qu'il y a déjà des recommandations qui sont formulées par rapport à la démobilisation. Merci. Et à la réinsertion.
Mohamed Boulet, vous êtes député national de l'opposition et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi général à la retraite. Votre analyse par rapport à la décision du Présidium?
Je commencerai d'abord par saluer M. Isaac Akil-Biamungu et M. Roger Malinga, ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent. En ce qui concerne mon avis sur cela, je dis qu'il y a quelques problèmes de compréhension par rapport à notre règlement intérieur qui nous est opposable à nous tous. Parce que quand je ne voudrais donner à titre illustratif que l'article 5, il précise à son point 7 les experts. Les 60 experts sont à choisir dans les milieux universitaires en raison de leur objectivité, impartialité, compétence scientifique. Et donc, quand je parcours de nouveau notre règlement intérieur, des attributions du présidium et du secrétariat technique sont bien définies. Et donc, qualifiés aujourd'hui, nos compatriotes qui sont venus d'experts, je trouve que j'aurais aimé que ce soit un autre concept, disons un autre substantif, par exemple, de les qualifier comme renseignants. Parce que là, et quelle objectivité est-ce qui viendrait? Et encore que nous voulons globalement résoudre le problème des groupes armés. En disant 198, ce n'est pas de l'invention. Si on prend toute la documentation en notre possession, par rapport à certains briefings, à certaines réunions de grande importance à laquelle nous avons assisté à l'état-major général au mois d'avril 2010, les listes, donc, après cet accord d'engagement des groupes armés, au nord, sud Kivu, sud Katanga, nord Katanga, je vais dire, Maniema, la province orientale, sont connues. Ce n'est un secret pour personne, parce que même les ministres
de l'Intérieur. Ça avoisine le
198. Oui, ça avoisine réellement les 198. On a donc, sans traquer que ce soit, on a voulu que ce soit comme ça, bien compris, pour que ceux qui ont des indications qu'on met renseignants puissent traquer là où il y a des doublons. Je pense que M. Isaac a dit ici, les résiduels, il y a d'autres groupes qui se forment parce que il n'y a pas eu de respect d'engagement. Mais ces engagements, encore que j'ai par devant moi ces engagements, l'article 2, l'article 3 a prévu beaucoup de choses, que les uns et les autres, les signataires, devaient faire quelque chose. Je veux bien que les partis, ces groupes armés d'hier, donc, soient devenus des partis politiques. Mais quels sont devenus les éléments armés? Parce que ce sont des mouvements politico-militaires, qu'on ne se la cache pas, parce qu'ils ne sont pas mains nues. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que, imaginez, pendant la transition, lorsqu'on a décidé d'intégrer tout le monde, il y avait des listes déclaratives qui permettaient donc à la commissaire, à la CONADER, à la structure militaire d'intégration, avant de passer les opérations de brassage et de sensibilisation, tout ça, pour vérifier en même temps et récupérer les armes, les désarmer, les identifier, pour les envoyer dans les centres d'orientation. Ils devaient faire les choix entre intégrer l'armée s'ils sont aptes, s'ils remplissent les critères, et ou aller à la vie civile totalement. C'est ça ma préoccupation. Et donc, aujourd'hui, si on considère seulement ceux qui ont signé hier les engagements de Goma, et que deviennent alors ceux qui sont aujourd'hui actifs dans la province orientale, qui eux aussi avaient signé des engagements, une lettre d'engagement avec le gouvernement. Et en plus de ça, prenons le cas du Katanga. Oui, on nous a dit qu'il y avait, lorsqu'on avait créé ces forces d'autodéfense populaire, il y avait un certain nombre de volontaires qui avoisinaient 15 000, qui aujourd'hui, on a plusieurs petits groupes, maïmaï et tout ça, ou des milices. Nous avons voulu que, au niveau des DDR, qu'on examine de toutes ces questions, y compris ceux des groupes, donc des éléments armés, Kadogo, Exéphase et Tigre, qui se trouvent à l'extérieur, ici en Afrique et dans l'espace de l'Union européenne, pour en savoir. Alors, aujourd'hui, ce serait contenter les uns et mécontenter les autres.
Honorable, ouais. Comment répondez-vous à ceux qui estiment que associer les groupes armés actifs serait, n'est-ce pas, créer un précédent fâcheux? Une façon de les encourager.
Ça dépend de la façon dont on considère cela. Parce que même j'ai dit ici, je n'entre pas dans les détails. Parce que si tout le monde avait respecté les engagements, avec même l'amnistie qui a couvert 6 années de faits commis là-bas, sauf donc un groupe d'autres infractions qui sont réputées graves, qui ne sont pas concernées par cette amnistie, mais ça pose problème parce que si tous les autres ne viennent pas. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur vient et dit, voilà, il parle de 100. Et en même temps, il dit, non, si on compte tous les groupes armés qui naissent aujourd'hui, on peut aller de 200 à 300. C'était dit devant la commission, bien que c'était donc à huis clos. Je le répète ici. Et donc, on a des difficultés pour dresser la cartographie réelle des groupes armés. Et cela, ça devait être préparé bien avant. On a eu suffisamment de temps pour préparer cette concertation. On devait avoir tous les éléments nécessaires de façon à savoir faire la cartographie province par province, les espaces qu'ils occupent, et en même temps avoir des données sur les personnes déplacées. Ce qui est vraiment difficile, je dois l'avouer.
Merci Isaac Biamungu. L'honorable Mohamed Boulay, lui prône une approche globale, n'est-ce pas? Il pense que l'évidence est là. Il faut non seulement tenir compte de vous, ex-groupes armés, qui vous êtes mués en parti politique, il faut se tenir compte, n'est-ce pas, des éléments armés, n'est-ce pas, qui faisaient partie de vos groupes armés. Il faut tenir compte des groupes armés qui sont actifs sur le terrain, et tenir compte aussi des groupes armés qui sont à l'extérieur du pays.
Je pense, au fait, s'il faut revenir sur la question, je peux soutenir son avis quelque part, mais aussi nous devons voir aussi l'état dans lequel nous nous retrouvons. Parce que je suis dans ce processus pendant longtemps, depuis Sun City, et qu'au Sun City, normalement, les partis armés qui ont pris part à l'accord n'étaient qu'à 4 armés, et avant l'accord, et puis ils se sont multipliés au moins à 5-6, parce qu'il y avait quand même un plateau à la table et il fallait se partager.
C'était des partis qui étaient actifs sur le terrain.
Tout à fait. Mais avec le temps aussi, il y a eu des subdivisions. Je m'en vais vous donner l'idée. Lors de l'accord du 23 mars, le même problème s'est posé parce qu'il y avait au début 18, Lors de la convocation des conférences, nous en avons eu 23. Et après l'accord aujourd'hui, après la signature, lorsqu'il a eu un 23, aujourd'hui on parle des 198, je ne sais pas affirmer ça. Mais néanmoins, je pense que cette manière d'encourager, d'accéder au pouvoir, de devenir quelqu'un dans l'espace politique congolais, après avoir pris les armes, n'est pas tellement intéressant. Il nous faudrait, ce qui est vrai, il faudrait d'abord identifier les cahiers de charges des groupes armés opérants, connaître leurs revendications, connaître leurs motivations.
Mais comment peut-on le faire quand on ne sait pas déjà au préalable les identifier?
Les identifier, c'est ça là où je disais le vrai problème, parce que la majorité, à ce qui concerne surtout le Nord et le Sud Kivu, parce que j'étais même porte-parole des groupes armés au Nord Kivu. Donc je connais, je maîtrise un peu la situation, la question. Il y a la majorité de ces groupes armés. Si je parlerais de la PESLES, il était dans les processus. Si je parlerais de Nyatura dans le Nord, dans le Sud Kivu, il était dans les processus. Si je parlerais de Pareco, il était dans les processus. Si je parlerais, donc en fait je pourrais citer une liste. Et si réellement le gouvernement avait pris en charge le comité national de suivi, les laisser fonctionner et accomplir sa mission, je ne pense pas que nous pouvons arriver à ce stade. Ce qui est important, c'est d'abord le respect des engagements entre partenaires politiques, et le deux, c'est trouver un mécanisme de décourager complètement le phénomène des groupes armés, mais aussi surtout en prenant toute responsabilité et en respectant ces engagements.
Voilà. Est-ce que vous pensez que ces groupes armés qui sont actifs, qui sévissent, n'est-ce pas, dans l'est du pays, pourraient se sentir concernés par les conclusions issues de ces consultations à partir du moment où ils n'ont pas été associés à ces travaux?
Non, cela dépend de l'approche auquel le gouvernement congolais peut traiter la question des groupes armés opérationnels. En fait, je pense aussi, si possible, si on pense que c'est en les amenant, parce que le cadre est complètement terminé, mais si le gouvernement congolais peut aujourd'hui ouvrir une brèche, seulement une approche où parler avec ces seigneurs de guerre, parler avec ceux qui sont opérationnels, je pense qu'on peut trouver toutefois un juste milieu et trouver un moyen, un mécanisme de mettre fin aux groupes armés.
Bon, monsieur Roger Malinga, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kinshasa.
John Kalala, je vous appelle à partir de la ville de Kinshasa, dans la commune d'Ingaliema. Si le Présidium veut écouter ces groupes armés ici de Goma, c'est une bonne chose. Mais pas la politique de deux poids, deux mesures. Il faut écouter tout le monde pour faire la paix à l'est de notre pays.
Vous ne pensez pas que cet auditeur a raison? Il faut écouter tout le monde. Parce que, en fait, ceux qui sont en train de semer l'insécurité sont là. Ici, vous parlez avec ceux qui ont déposé les armes, mais ceux qui sont en train d'insécuriser la population sont là, vous semblez les ignorer. Est-ce que vous pensez que cette approche-là est efficace?
Je crois qu'il faut être réaliste, parce qu'en fait, tel que je
pense... Être réaliste, c'est parler avec ceux qui ne constituent pas un danger, ne constituent pas une menace, et ignorer ceux-là qui constituent effectivement la menace?
Non. C'est-à-dire, le réalisme, c'est dans quel sens? Même les délégués aux consultations nationales, ils représentent des couches sociales. Pour dire qu'on n'allait pas inviter tout le monde à venir à Kinshasa pour parler, pour intervenir et pour présenter les problèmes de son coin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous vous imaginez, si le Présidium a accepté qu'il y ait la participation des délégués de sept groupes armés, c'est tout simplement parce qu'il a pensé, et c'est vrai, que ces délégués représentent les groupes armés qui ont adhéré aux principes démocratiques. Les autres, ils continuent à manipuler les armes, ils continuent à violer, ils continuent à massacrer des gens, à piller. Ce sont ceux-là qu'on va amener dans les consultations nationales. Je pense que c'est un échantillon qui représente les groupes armés. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler ici que ces délégués représentent, ou ces délégués ont une mission très importante qui s'articule à deux volets. Le premier volet, on croit que ces délégués pourront apporter quelques pistes de solutions aux recommandations qui ont été formulées, parce qu'ils en ont l'expérience. Mon collègue ici, Isaac, président national du Parti politique Union des jeunes progressistes, a parlé de ça. Ils ont l'expertise et ils savent pourquoi leurs collègues sont restés. On s'imagine qu'ils ont des approches, ou bien ils pourraient utiliser une approche pour les sensibiliser aussi, de laisser des armes et de suivre la voie recommandée, les principes démocratiques. La deuxième mission, ou le deuxième volet, parce qu'en fait, la commission, la thématique d'EDER a suffisamment avancé et il y a déjà un draft par rapport aux recommandations. Nous pensons que ces délégués des groupes armés qui sont appelés experts, ils viennent participer ou bien ils amènent leur contribution à terme d'experts, pourront étoffer les recommandations déjà formulées pour qu'en fait ces recommandations-là puissent être applicables ou bien pour que les autres groupes armés puissent les s'en approprier. Je crois que c'est un aspect très important. On n'allait pas amener tout le monde à Kinshasa, c'est impossible. Je ne crois même pas qu'il y aurait une salle qui va contenir tous les peuples congolais parce qu'ils ont un mot à dire. C'est un échantillon.
Merci. Mohamed Boulé, par essence, les Maïmaï, ils sont des groupes qui se constituent autour de l'idéologie selon laquelle la population doit défendre leur territoire contre les envahisseurs. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure que les temps passent, il y a des alliances contre nature et qui se font entre ces Maïmaï et les groupes qu'ils sont pourtant censés combattre. Comment, à votre avis, vous qui êtes militaire, comment vous expliquez ce phénomène-là? Nous nous sommes constitués pour combattre l'ennemi. Avec le temps, nous coalisons, nous constituons nous coalisons avec cet ennemi-là pour combattre un troisième ennemi. Comment on peut expliquer ces phénomènes-là?
Mais j'aimerais que la question leur soit posée. Les objectifs, l'ennemi. Si on veut mettre hors d'état de nuire l'ennemi, ce n'est pas de l'intérêt qu'on va combattre. Ils doivent au moins nous donner vraiment la preuve qu'ils sont en train de sécuriser nos frontières. Se mettre à la frontière pour qu'aucun ennemi vienne sur notre territoire. Mais ça, ce sont des alliances, des associations contre nature, comme vous le dites, d'affairisme, tout simplement. Parce que lorsqu'on se retire en profondeur de la République démocratique du Congo, dans les zones de minières, comme à Walikale et tout ça, et ça, c'est défendre qui? Mais qui sont leurs victimes? Mais nous avons reçu l'abbé Malumalu, lorsqu'il nous a parlé des problèmes de Starek. Des fois, avec ces groupes armés, il est arrivé à poser, mais qui sont vos victimes? Et ces mamans, ces filles violées, tout ça, ces pillages-là, avec l'instauration de vers Massissi là-bas, on qualifie ça, il faut payer 1 500 pour dormir calmement, sinon on viendra vous toquer tout ça. Mais c'est ça aussi, mais il n'y a pas de revendications claires. Si ce sont des revendications politiques, il faut laisser les armes à côté. Mais les remèdes pour mettre fin à cela. Parce que maintenant, nous avons tout l'arsenal juridique est là. La loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées, et ainsi que de la police nationale, complétée par les statuts, le Conseil supérieur de la défense, notre constitution, au sens de l'article 192, quiconque prend les armes contre, mais c'est la haute trahison. Il doit être poursuivi par devant les juridictions militaires.
Donc, il ne peut pas être associé au forum national.
Mais parce que cette association, l'association des malfaiteurs, disons, les gens qui s'y mettent, désertion à bande armée, ce sont des infractions graves au sens du code de justice militaire. Ils doivent être poursuivis.
Donc vous donnez raison à ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas les associer aux concertations nationales.
Mais comment les associer? Est-ce qu'ils viendraient ici mains nues avec leurs armes? Tout ça, ils seraient intéressés parce qu'ils seraient proches de quelque chose. Ils savent qu'à tout moment, on peut les arrêter. Mais c'est cela le problème. Si ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est de manière tout à fait une approche méthodique et peut-être didactique pour dire, voici ceux de vos collègues qui hier ont pris les armes, mais ils sont maintenant devenus partis politiques, les voici, ils sont là, ils viennent plaider leur cause, ils viennent parler pour participer et donner des pistes, faire des propositions en ce qui concerne les pistes de solutions. Merci. Mais pas ceux qui sont dans la jungle et qui continuent à tuer, même à l'instant, à la minute où nous parlons, il y a des victimes.
Merci. Deuxième partie de cette émission, quel pourrait être l'impact de la participation de ces groupes armés aux concertations nationales sur l'activisme de ces groupes armés en RDC? Nous allons prendre une illustration. Des accrochages sont signalés depuis samedi passé à Penekoussou, dans les territoires de Chabunda, entre les militaires de l'armée régulière et un groupe déraillé à Mutomboki, commandité par un major dissident des FRDC. Les sources militaires attestent que la milice est en débandade dans la forêt vers Chabunda centre et que leur chef a été blessé. Des explications avec Jean Kassami.
Les affrontements ont éclaté 48 heures après que les FARDC guidés par la population civile se sont lancés à la recherche de ces groupes commandités par un certain Major Billy, dissident des FARDC. Les deux groupes se sont alors croisés samedi dernier à Penekusu, non loin de Kalole, dans la chefferie de Wakabango Premier. Les sources militaires annoncent que le chef de cette milice a été blessé par balle et ses éléments dispersés dans la forêt. Les FARDC sont en leur poursuite dans la forêt en direction du chef-lieu du territoire de Chabunda. D'autres se sont rendus au FARDC, mais leur nombre n'est pas révélé par la hiérarchie du 1009e régiment qui se trouve au front. Toujours selon les sources militaires, Seraya Mutomboki du groupe Billy avoisine une centaine. La plupart se livrent au pillage et au viol. Deux d'entre eux, munis d'une arme à feu et d'une lance en bois, ont violé une femme à Zibo peu avant le déclenchement des combats avec les FARDC. La population qui avait fui dans la forêt commence à regagner leurs habitations, indique-t-on des sources militaires. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Isaac Akili Biamungu, je rappelle que vous êtes président du parti politique Union des Jeunes Progressistes et Solidaires. Vous êtes aussi signataire de l'accord du 23 mars 2009. Et pendant que vous, ex-groupe armé, vous participez aux consultations nationales ici à Kinshasa, des combats se déroulent à plusieurs endroits entre les FARDC et les Mai Mai d'un côté et de l'autre les Mai Mai entre eux. Et cela nous amène à poser la question de savoir quel impact votre participation à ces assises pourrait avoir sur l'activisme de ces groupes armés sur terrain.
En fait, merci beaucoup. Je voulais aussi peut-être rappeler ici, en dehors de président d'un parti ici des accords, je suis membre aussi du comité national de suivi des accords de paix du 23 mars.
Merci pour la précision. Et mais l'impact de votre participation sur l'activisme des groupes armés sur terrain.
Il y a tout un plan, un mécanisme élaboré entre les trois parties, donc le gouvernement congolais, avec le comité paritaire CNDP, avec le comité paritaire des groupes armés Nord Kivu et le comité paritaire du Sud Kivu. Et ce plan constitue au fait des voies et moyens, des pistes et des solutions pour l'éradication totale des groupes armés.
Et ces plans incluent les groupes armés qui sont encore actifs dans l'Est?
Tout à fait, il les inclut parce que c'est en fait comme nous sommes en train de dire, parce que le problème, le prétexte de ces groupes armés, donc il nous suffit seulement d'achever le processus de paix du 23 mars pour que les autres ne trouvent plus prétexte politique. Parce que comme nous parlons ici, je saute sur le cas, Raia Mutomboki, c'est un groupe armé signataire de l'accord. Mais Raia Mutomboki en soi, comme il n'a pas été considéré, n'importe quel bandit peut aller voler les chèvres, peut aller piller et il se réclame, je suis Raia Mutomboki.
Entre-temps, il y a eu aussi Raia Mukombozi.
Tout à fait. Il ne fait que multiplier les noms, changer de stratégie, et il les justifie seulement par manque de respect des accords, ou bien la non-mise en pratique de ce mécanisme, de ce rapport, de ce travail technique élaboré par la commission mixte paix sécurité et le comité national de suivi des paix des accords de Goma.
Alors, on peut comprendre par là que après les concertations nationales, il n'y aura plus d'activisme des groupes armés dans l'est de la RDC.
Nous vous promettons, je le dis à mon honneur, si réellement la thématique concernée va nous donner de la place. Écoutez les propositions que nous allons fournir, nous allons mettre à leur disposition. Et si les gouvernements congolais vont les analyser et trouver un moyen de les exécuter, nous vous rassurons. Et s'ils impliquent les acteurs concernés, parce que les grands problèmes, nous allons citer ici, le problème par exemple des DDR passés.
Les acteurs concernés, c'est qui?
Les acteurs concernés, je vais vous donner des exemples très typiques. Donc, ceux qui vont exécuter la tâche DDR, nous ne devons pas prendre déjà animé de leurs appétits parce qu'ils ont besoin de faire des affaires comme nous l'avons entendu ici. Merci. Mais des hommes qui ont souci et volonté de ramener la paix chez nous.
Merci Roger Malinga, conseiller politique et diplomatique du gouverneur du Nord Kivu. Selon le coordonnateur des TAREC, M. l'abbé Apollinaire Malumalu, par leur expérience et leur témoignage, ces ex-groupes armés peuvent donner un certain nombre de pistes et de solutions de l'éradication des différents groupes armés et stabiliser l'ensemble du territoire national. Et c'est vrai que, de par leur expérience, ils sont censés détenir, n'est-ce pas, des éléments d'information, mais pensez-vous que cela pourrait impacter sur l'activisme des groupes armés sur le terrain?
Je crois que j'adhère à ces souhaits, Parce que si les délégués de ces groupes armés ont été conviés à participer comme experts aux travaux de cette thématique DDR, justement c'est parce qu'ils ont l'expertise. Et après ce travail, ce qui est prévu est que ces délégués-là puissent aller faciliter la sensibilisation auprès des autres groupes armés qui sont encore opérationnels. Je crois que si nous avons tous la même vision, si nous avons tous la même vision et si nous avons tous les mêmes objectifs de faciliter le rétablissement de la paix, c'est possible. Malheureusement, si on parle aujourd'hui de ce qui se passe au Sud Kivu, de ce qui se passe encore dans certaines contrées par rapport aux violations, par rapport à la déstabilisation, c'est tout simplement parce que il y a des personnes qui n'ont pas été autorisées à venir participer aux concertations nationales, qui se constituent encore comme des tireurs de ficelles et ils continuent à monter des stratégies pour déstabiliser ces contrées-là. Est-ce qu'ils sont pour la paix? Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Mais si nous avons, nous tous, cet objectif de faciliter l'exécution des recommandations qui seront formulées à la fin de ces concertations nationales, je crois que le travail qui sera fait par ces délégués des groupes armés pourra atteindre les objectifs.
Merci, honorable Mohamed Boulay. Vous êtes député national de l'opposition, membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi général à la retraite. On sait que les groupes armés en RDC, c'est une nébuleuse. On ne maîtrise pas leur chaîne de commandement, leur mode d'approvisionnement. Et dans ces conditions, vous pensez qu'on peut mettre un terme à leur activité?
D'abord, pour mettre un terme à leur activisme, il faut avoir des renseignements précis en ce qui concerne la cartographie de ces groupes armés. Je crois que, en ce qui concerne la province orientale, j'apprécie à juste valeur les documents de travail que le gouvernement a préparé pour donner la cartographie, province, disons, territoire par territoire, la présence des éléments armés des LRA ou, par exemple, d'Imboro. Je crois, c'est autant que tous les autres gouverneurs des provinces l'ont fait. Je suis certain, parce que nous avons suivi dans notre thématique, une note très appréciable du gouverneur de la province du Nord Kivu, pour ne pas les citer. Alors, parce que nous constatons que les engagements signés autrefois ne sont jamais respectés en termes de cessez-le-feu, où il était dit de faire l'arrêt immédiat, total des hostilités sur toute l'étendue des provinces, tous les actes de violence, tous les mouvements et renforts militaires, ainsi qu'à tout nouveau recrutement, et de s'abstenir de toute attaque, tout acte de provocation, je le disais, c'est l'article 1 et l'article 2, mais qu'est-ce que nous faisons en évaluant tout cela? Parce que ceux qui ne respectent pas, mais ils ne respectent aucune loi, aucune autorité, je crois que les forces armées doivent se préparer vraiment à mener des opérations pour traquer et éradiquer ces phénomènes des groupes.
Nous allons prendre cette question qui vient de Bukavu, c'est qui vous pour vous.
Merci. Pierre Sinanokoko de Bukavu au Sud Kivu. Je crois que la décision prise par le Présidium est salutaire en intégrant certains groupes armés dans la concertation nationale, mais cela ne dédouane pas l'Est de la RDC par des guerres à répétition, car plusieurs milices actives dans la région ont été écartées du processus de paix prôné par les chefs de l'État.
Vous allez réagir, ce sera aussi votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Mais ce n'est pas qu'ils sont écartés, il y a des engagements. Si j'ai par devant moi les engagements avec les signatures, tout ça. Il faut le respect mutuel de ces engagements. D'une part, les groupes armés qui ont pris librement ces engagements, qui ne respectent rien. Et le gouvernement, de l'autre part, parce qu'il doit rétablir l'ordre, l'autorité de l'État partout, il doit tout mettre en œuvre pour sécuriser. Nous avons besoin que le peuple congolais vive en paix, qu'on soit à l'Est, qu'on soit à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout. C'est cela.
Merci. Isaac Akili Diamungu, votre conclusion?
Et ma conclusion serait au fait ici de demander à l'autorité congolaise de trouver un moyen, un mécanisme, d'écouter surtout ceux qui sont concernés ici, les experts, parce qu'ils nous appellent experts, donc nous avons une expertise, et de trouver un moyen pour mettre en œuvre ce que nous allons donner comme recommandation.
Roger Malinga, votre conclusion.
Ma conclusion est qu'il faudrait que tout le monde ou tous les animateurs politiques de la RDC reconnaissent que le moment d'atteindre le moment de faire parvenir la paix, de faire amener la paix est arrivé et que nous devons plus réfléchir par rapport aux approches, par rapport aux méthodes qui vont nous faciliter de mettre fin à la guerre.
Merci, c'est la fin de cette émission et bon suivi de programme sur Radio Capi.